Alors Cyril, vous commencez votre journal avec une vieille affaire qui revient hanter le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Une vieille histoire qui pourrait lui coûter beaucoup d'argent. Pour vous rafraîchir la mémoire, retour au printemps 2015. À l'époque, Pascal Ouzelot, patron de la chaîne numéro 23, conclut un deal avec le groupe Next Radio TV, la maison mère de BFM et RMC, pour lui revendre sa fréquence contre la somme de 90 millions d'euros. L'affaire fait beaucoup de bruit à l'époque, elle choque énormément, on en parle sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le CSA, qui doit donner son aval à cette transaction, refuse de valider cette vente et va même jusqu'à retirer l'autorisation d'émettre de numéro 23 au prétexte d'une fraude à la loi. Selon le CSA, le patron de la chaîne aurait eu l'intention de réaliser une plus-value dès son dépôt de candidature pour obtenir la fréquence 23 de la TNT.
Mais voilà, le CSA se fait désavouer quelques mois plus tard.
Et en effet, en mars 2016, le Conseil d'État donne raison à Pascal Ouzelot, annule la décision du CSA et finalement, bon gré mal gré, le CSA va finir par donner son aval à la vente de la chaîne à Next Radio TV en juillet 2017.
Vous mettez un point à votre phrase, mais l'affaire ne s'arrête pas là.
Eh non, Pascal Ouzelot, non content d'avoir tout de même réalisé une exceptionnelle opération financière, mène depuis l'été dernier une guerre juridique au CSA, à qui il réclame 20 millions d'euros de dommages et intérêts. Une plainte déposée l'été dernier, mais la justice ne va pas assez vite au goût de Pascal Ouzelot. Nous avons ainsi appris que l'homme d'affaires a lancé une procédure dite de référé. Provision, elle permet aux plaignants de pouvoir toucher une première partie de ce qu'ils réclament. En l'occurrence, l'ancien patron de numéro 23 demande à ce que 10 millions d'euros lui soient d'ores et déjà versés en attendant le jugement sur le fond. Une audience devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Alors, le CSA qui a déjà été condamné, on s'en souvient, il n'y a pas longtemps, à verser peu plus d'un million d'euros à la chaîne C8, va-t-il de nouveau devoir passer à la caisse et avec lui le contribuable français, car tout ceci, je le rappelle, c'est de l'argent public. Côté CSA, on m'assure qu'on se battra jusqu'au bout pour gagner cette affaire face à Pascal Ouzelot.
Autre baston, Cyril, on va parler de rugby, le tournoi des Six Nations qui commence samedi 1er février et France 2 a présenté hier son dispositif pour cette édition 2020.
La France n'est pas au mieux de sa forme, mais le tournoi est toujours un événement dans le monde du sport et les Bleus commencent fort car ils affronteront dès leur premier match les vice-champions du monde anglais pour le fameux Crunch. Ça se passera le dimanche 2 février. Notre journaliste Alexandre Omar était hier à la présentation organisée par France 2 et il a demandé à Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télé, s'il craignait que la forme très moyenne des Français influe sur les audiences.
Cette année, non. Cette année, je pense qu'on croit tous à raison qu'une nouvelle ère arrive et que les Bleus vont être très performants. Donc moi, je suis très confiant sur les audiences, notamment sur le premier match, France-Angleterre, qui est un rendez-vous qui est attendu par l'ensemble des Français.
France-Angleterre, ça sera où en France, en Angleterre ?
En France. Côté confiance donc, côté diffuseur, France 2 qui a perdu Fabien Galthié, son ancien consultant devenu sélectionneur des 15 de France, et s'est attaché les services d'un ancien international, Dimitri Yachvili. Nous lui avons demandé comment il pensait se différencier de son illustre prédécesseur.
Je ne fais pas ce métier-là pour me différencier avec qui que ce soit, essayer d'être le plus naturel possible, de partager mon expérience et essayer de faire un peu plus aimer le rugby aux Français, de leur montrer le côté un peu plus subtil. C'est un sport de combat, certes, c'est un sport rugueux, il y a du défi physique, mais il y a aussi ce côté subtil. Le rugby est aussi un jeu d'échecs, c'est ce que je vais essayer de partager, de mettre en lumière.
Un jeu d'échecs auquel participent également les femmes.
Et c'est souvent très méconnu du grand public, mais en parallèle du tournoi des hommes, il existe également un tournoi des Six Nations féminin. La France y participe depuis 1999. Les Françaises comptent 6 victoires, la dernière en 2018. Cette année, France 2 diffusera 2 des 5 rencontres en direct. Peut-être une manière de suivre l'exemple du foot féminin qui a pris de l'ampleur grâce à sa meilleure exposition à la télévision. Alexandre Omar a demandé à Cécile Gray, qui réalise les interviews des joueurs au bord du terrain, si elle pensait que le rugby féminin pourrait suivre la même trajectoire.
Le rugby féminin a ça de formidable qu'il est aujourd'hui incarné par des filles qui sont de plus en plus mises en avant, qui sont de plus en plus professionnelles aussi parce qu'il y a des contrats fédéraux qui sont mis en place donc qui permettent aux filles de ne faire que du rugby de leur vie alors qu'il y en a encore beaucoup et il n'y a pas si longtemps que ça qui travaillaient la journée, allaient s'entraîner le soir, devaient poser des congés sans solde pour aller disputer les compétitions. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une véritable avancée. C'est un rugby super agréable à regarder, le rugby féminin, puisqu'il est, c'est un rugby de vitesse, de jeu debout, de passe. Avec des contacts évidemment, puisque ça reste quand même un sport de combat, mais un rugby que les gens ont de plus en plus envie de voir, et en plus avec des très très belles histoires. Et la France, en plus, a la chance d'avoir une équipe de France féminine très compétitive.
Les Françaises qui disputeront la Coupe du Monde de rugby féminin l'année prochaine en Nouvelle-Zélande. En attendant, le tournoi destination des hommes, des femmes et même des moins de 20 ans. C'est donc à suivre sur France Télévisions à partir du 1er février.
Le couple Harry et Meghan s'apprête donc à quitter la couronne et ils préparent déjà la suite des projets médias.
Ouais, selon The Times, la duchesse de Sussex aurait signé un contrat avec Disney pour une série de projets. Des projets qui n'ont pas encore été précisés, mais il semble que cela ne soit pas une question d'argent. Selon le magazine anglais, l'argent qu'aurait gagné Meghan Markle dans cette opération sera reversé à une association de protection des éléphants. Côté famille royale, on assure toutefois que ce contrat, dans lequel pourrait également être impliqué le prince Harry, était déjà en négociation avant que le couple annonce son intention de se retirer de la vie du palais.
Cyril, un mot concernant la future loi de réforme de l'audiovisuel. La France a bien l'intention de faire passer à la caisse Netflix et les autres plateformes de vidéos à la demande.
On en a déjà parlé. Ici même, le gouvernement veut que les plateformes étrangères participent au financement de la création, au même titre que les chaînes de télé historiques. Le ministre de la Culture avait dit qu'elles devraient au minimum investir 16% de leur chiffre d'affaires annuel. Finalement, ce sera beaucoup plus. On a appris hier que ce taux serait de minimum 25%. Alors, si on fait un calcul rapide, avec plus de 6 millions d'abonnés en France qui payent en moyenne 11 euros par mois, Netflix devra débourser près de 200 millions d'euros chaque année pour le financement de la création française.
Et puis Cyril, deux brèves pour terminer ce journal.
Cadmera ne quitte plus le petit écran après Baron Noir, dont la troisième saison arrive le mois prochain sur Canal+, ou récemment La Part du Soupçon sur TF1, le comédien va cette fois camper le personnage d'une mini-série de 6 épisodes, toujours pour TF1. Il sera accompagné de Jean Reno, un casting de prestige, donc pour la une. L'autre réussite, elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est celle du New York Times. Le quotidien américain vient de franchir la barre des 5 millions d'abonnés.
5 millions d'abonnés numériques ?
Non, 5 millions d'abonnés, un succès porté essentiellement par le numérique, qui représente à lui seul 4 300 000 abonnés. Sur la seule année 2019, le New York Times a gagné 1 million d'abonnés sur le numérique. Le patron du journal a dit que son objectif était désormais d'atteindre le cap des 10 millions d'ici 2025, dans 5 ans.
Comme on dit beaucoup de patrons de presse, je te préviens, le numérique, ça ne marchera jamais. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.